Radio Prague, les informations.
35 000 pharmaciens unis contre la réforme de la santé publique. Tony Blair, François Hollande et d'autres leaders des partis socialistes européens viendront à Prague vendredi. Et puis la République tchèque s'inquiète de la révision prévue de la directive européenne sur le traitement des déchets. Des pharmaciens tchèques ont annoncé mercredi la remise au gouvernement d'une pétition avec 35 000 signatures pour protester contre la réforme du système de la santé, une réforme qui menace selon eux l'existence de petites pharmacies en zone non urbaine. Les pharmaciens reprochent notamment au ministre de la Santé, David Rath, d'avoir introduit début janvier une réduction de 32 à 29% des marges sur les médicaments. Le 24 février dernier, les pharmaciens en colère ont également participé à une manifestation à Prague avec des milliers de médecins privés et de petits hôpitaux opposés aux coupes budgétaires décidées par le ministère de la Santé. Le Britannique Tony Blair, l'Italien Romano Prodi ou encore le Français François Hollande, ce sont quelques-uns des hommes politiques qui ont répondu à l'invitation du Premier ministre tchèque Jiří Paroubek pour une réunion des leaders des partis socialistes européens vendredi prochain à Prague. Libor Ambrožek, ministre tchèque de l'Environnement, s'inquiète de la révision prévue de la directive européenne sur le traitement des déchets qui risque, selon lui, de transformer les pays les plus pauvres de l'Union européenne en décharges. Le ministre craint que cette révision ne favorise l'envoi systématique de déchets des pays économiquement forts vers ceux plus pauvres, alors que la République tchèque peine déjà à lutter contre les importations illégales d'ordures allemandes. Selon de récentes estimations des inspecteurs tchèques de l'environnement, plus de 15 000 tonnes de déchets allemands ont été importées ces derniers temps en République tchèque. Et les ministres de l'Environnement de l'Union européenne doivent discuter jeudi à Bruxelles de la prévention et du recyclage des déchets pour ajuster la réglementation en vigueur. Ce mercredi 8 mars, marqué comme la Journée internationale de la femme, est peut-être une date qui restera dans l'histoire tchèque comme le jour où la première plainte pour discrimination en raison du sexe a été déposée. C'est ce qu'ont indiqué les responsables de l'organisation Gender Studies, qui ont précisé que Marie Ceausevičová, la potentielle plaignante, est convaincue de ne pas avoir été recrutée au poste de directrice financière de la société Praška Teplárenská uniquement parce qu'elle est une femme. On passe à la culture avec les premiers applaudissements pour Dagmar Havlova après 9 années sans monter sur la scène du théâtre de Vinohrady. L'épouse de l'ancien président Václav Havel a participé ce mercredi à la répétition générale de la pièce « Moment de vérité » du dramaturge américain Israel Horovitz. Avant de se marier et de devenir la première dame du pays en 1997, celle qui s'appelait encore Dagmar Vetchkernova et qui jouait au cinéma avait également interprété près de 25 rôles dans ce même théâtre. Et on termine ce bulletin avec la météo, de la neige et des températures autour de 0 degré sont prévues pour la journée de jeudi, jour de fête des Františka en République tchèque. Et c'est la fin de ces informations présentées par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque. Na Gebertova.
La République tchèque n'arrive pas à consommer suffisamment les fonds de l'Union européenne. Pourquoi ? Une réponse dans notre tour d'horizon de l'actualité tchèque. Vous trouverez à son menu encore d'autres thèmes intéressants. La Journée internationale de la femme, incombant à ce 8 mars, n'est presque plus célébrée en République tchèque, puisque compromise aux yeux d'une grande partie du public par le régime communiste. Le lendemain, le 9 mars, est inscrit dans le calendrier pour la première fois comme la Journée mondiale du Rhin. Nous vous dirons pourquoi. À la fin de notre programme, nous céderons la parole à un réalisateur français qui participe à Prague au festival Jeden Svět sur les droits de l'homme et qui s'achèvera d'ici peu. La République tchèque ne parvient pas à consommer, nous l'avons dit, tous les moyens financiers qui lui sont offerts par les fonds structurels européens. Pour cela, le ministre de l'Aménagement du territoire, Radko Martinek, s'est rendu à Bruxelles pour exposer les problèmes que rencontre la Tchéquie dans ce domaine. Alain Slivinski pour les détails.
Radko Martinek s'est longuement entretenu dans la capitale belge avec la commissaire en charge de la politique régionale, Danuta Hübner. Il a reconnu que la République tchèque n'arrivait pas à consommer pleinement sa part des fonds structurels européens. Aujourd'hui, la Tchéquie n'a consommé que 10% de l'allocation totale répartie sur les années 2004-2006. L'aménagement du territoire explique pourquoi.
Hlavní důvod, proč máme komplikace s čerpáním, jednak obecně vyplývá z toho, že to neumíme.
La principale raison de ce retard est d'une manière générale le fait que nous ne savons pas le faire comme ne savaient pas le faire les autres pays membres et qui ont dû apprendre. Cela veut dire que nous apprenons actuellement. La seconde raison réside dans le mécanisme compliqué de contrôle institué afin qu'il n'y ait pas de fraude. Pour cela, le système de financement rétroactif a été choisi car il présente la plus grande sécurité.
Ce système de financement rétroactif représente justement le plus grand problème dans la consommation des fonds structurels européens. Ce système ne peut être appliqué par la Tchéquie, car cette dernière est incapable de contracter tous les ans des crédits de dizaines ou centaines de milliards pour la réalisation des projets. Pour cela, il est indispensable de passer à un système de financement progressif, a déclaré le ministre Radko Martinek lors d'un briefing extraordinaire. La commissaire européenne en charge de la politique régionale a reconnu que tous les nouveaux membres de l'Union rencontraient des problèmes semblables et a appelé le ministère de l'aménagement du territoire tchèque à jouer le rôle de coordinateur dans cette question. De son côté, le ministre Martinek reste optimiste.
Česká republika nepřišla o žádné peníze v této chvíli. Má tedy reálnou šanci.
La République tchèque n'a pas perdu d'argent jusqu'à maintenant et possède la chance réelle d'utiliser ses moyens financiers au maximum. La République tchèque peut consommer, ou disons plutôt faire la demande de la certification nécessaire à la consommation des fonds structurels jusqu'au mois de novembre de cette année. Nous disposons donc d'assez de temps pour que la situation s'améliore d'une manière significative.
D'après le ministre, la République tchèque devrait parvenir à consommer dans les 80% des 13 milliards de couronnes tchèques qui lui ont été alloués par les fonds structurels européens pour l'année 2004. L'offre totale de ces fonds pour la période 2004-2006 est de 45 milliards de couronnes, soit 1,5 milliard d'euros.
La Journée internationale de la femme est célébrée ce mercredi. Discrédité sous le régime communiste, les députés tchèques avaient pourtant voté pour sa restauration dans le calendrier, voilà 2 ans de cela. N'empêche, même si les fleuristes et chocolatiers s'attendent à un regain d'intérêt des hommes le 8 mars, en République tchèque, la journée consacrée à la plus belle moitié du genre humain est aujourd'hui pratiquement ignorée. Yom Narget.
La journée internationale de la femme, bien entendu que je ne la fête pas. 16 ans après la révolution, c'est encore de manière catégorique que réagissent beaucoup de femmes tchèques lorsqu'on leur demande si elles vont célébrer cette journée qui leur est dédiée. La faute au temps révolu d'avant 1989, aujourd'hui sans doute quelque peu caricaturisée, quand les hommes, pas tous quand même, profitaient de l'occasion pour se piquer le nez avec leurs collègues de travail avant de ramener un bouquet à leur épouse et rester à les attendre patiemment à la maison avec les enfants. Un vestige du passé donc remis au goût du jour par les politiques. Et même si elle laisse indifférent la plupart des Tchèques, la journée est malgré tout devenue l'occasion de s'interroger sur la place des femmes dans la société. Or, bien que les leaders des mouvements féministes ne manquent jamais de monter au créneau pour défendre leurs droits, parfois même avec un peu trop de régularité et d'agressivité selon certains, il n'en reste pas moins que de nombreux progrès ont été accomplis en 16 ans dans le domaine de l'égalité des chances. Mais parce que la journée de la femme ne fait pas l'unanimité, le parti chrétien-démocrate aimerait que la fête des mères retrouve la place qui était la sienne dans la première moitié du XXe siècle et redevienne dans le calendrier ce que les Tchèques appellent une journée importante. La question devait d'ailleurs être débattue ce mercredi au gouvernement et le député chrétien démocrate Josef Janeček en explique les raisons.
C'est une tradition qui remonte déjà à l'époque de Madame Masarykova, épouse du premier président de la République tchécoslovaque. Elle avait alors beaucoup contribué à ce que la fête des mères soit respectée. La tradition qui veut que cette fête soit célébrée le deuxième dimanche de mai a donc des origines profondes et nous ne faisons que renouer avec celle-ci.
Pour Vladimír Špidla, l'ancien Premier ministre tchèque, désormais commissaire européen en charge des affaires sociales et de l'égalité des chances, la journée internationale de la femme constitue cependant un moment opportun pour rappeler qu'en Europe en général, tout n'est pas encore parfait, loin de là.
Je pense que la journée internationale de la femme est une journée qui fut justement instaurée à un moment où l'égalité des chances en était encore à ses balbutiements. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas encore dire que nous soyons parvenus à une égalité entre les deux sexes, comme en témoignent les chiffres de l'Union européenne. Par exemple, pour les salaires, il y a une différence moyenne de 15% entre les hommes et les femmes en Europe. En République tchèque, cette différence est même de 19%. Par ailleurs, même à Bruxelles, il n'y a que 25% de femmes qui siègent au Parlement européen. Mais lorsque nous aurons atteint une égalité dans tous les domaines, alors je serai également favorable à la mise en place d'une journée internationale de l'homme.
Et ce jour-là, les femmes tchèques offriront alors peut-être une bouteille à leur mari.
Ce 9 mars, en revanche, est inscrit dans le calendrier pour la première fois en tant que journée mondiale du rein. Une explication du professeur Vladimir Tesař, médecin-chef à la clinique de néphrologie de l'hôpital Všeobecná fakultní nemocnice à Prague.
Il y a lieu d'étendre la connaissance et l'information sur les maladies rénales, non seulement au large public, mais aussi aux médecins internes et aux praticiens, ainsi qu'aux spécialistes cardiologues, diabétologues, endocrinologues. Une façon de dire que les maladies rénales font partie d'un large spectre de maladies dites de civilisation et qu'elles sont fréquentes. Les maladies rénales chroniques touchent en effet près de 10% de la population, tandis que 5% de malades souffrent d'une fonction rénale considérablement réduite.
Le diabète et l'hypertension se présentent comme les principaux éléments déclencheurs des maladies rénales chroniques. Celles-ci peuvent déboucher sur une insuffisance rénale qui condamne le malade à la dialyse ou à une grève du rein. Aujourd'hui, on trouve en République tchèque près de 4000 malades dialysés et près de 3000 personnes ayant subi une transplantation du rein. Les personnes concernées risquent en outre de souffrir de maladies cardiovasculaires. Comme ce dernier risque est très élevé, le professeur Tesař insiste sur ce qu'il faut approfondir et améliorer la connaissance du public et des milieux médicaux en la matière. Si une prévention primaire dans ce domaine est plutôt difficile, on sait tout de même que la cigarette joue encore ici un rôle néfaste, une prévention secondaire est de rigueur. Il s'agit d'identifier et de suivre les personnes appartenant à des groupes à risque. En ce qui concerne le niveau de la néphrologie tchèque, le professeur Vladimir Tesař précise.
L'évolution de la néphrologie en République tchèque a connu plusieurs phases. Dans les années 50 et 60, et c'est peut-être un peu étonnant, on appartenait dans ce domaine à la pointe. Nous étions le quatrième pays en Europe à avoir introduit un programme de dialyse et l'un des premiers pays à entamer un programme de greffe d'organes. Puis, dans les années 70 et 80, en dépit de très bonnes qualités professionnelles des médecins, le manque de moyens financiers et de bons équipements techniques a eu certaines incidences négatives. Je noterai par exemple que 10% des malades nécessiteux seulement ont pu être dialysés. En revanche, le programme des transplantations a su maintenir à un niveau élevé. Dans les années 90, le traitement par dialyse s'est considérablement étendu, étant à présent disponible à tous ceux qui en ont besoin. C'est aussi la qualité du traitement qui s'est à mon avis nettement améliorée. J'ose dire qu'elle est comparable à celle qui est fournie aux malades en Europe occidentale.
Les maladies et les troubles se rapportant aux reins sont aussi au cœur de la Fondation tchèque pour les maladies rénales, qui a été créée il y a quelques années et que le professeur Vladimir Tesař représente. Elle se propose, à l'instar des fondations analogues, notamment aux États-Unis, de développer toute une large gamme de programmes et d'activités qui sont destinés au public et aux spécialistes. C'est ce jeudi que s'achève à Prague le festival de films documentaires Jeden Świat, One World. Centré sur les droits de l'homme, ce festival n'en est qu'à sa 8e édition, mais connaît déjà un succès important auprès du public pragois et dans d'autres grandes villes du pays. De nombreux réalisateurs viennent présenter leurs films et participent à des débats et séminaires après les projections. C'est le cas de Christian Lelon, réalisateur originaire de Haute-Savoie, venu présenter son film intitulé « Justice à Agadez ». Il répond aux questions d'Alexis Rosenzweig.
C'est un film qui parle d'une pratique de justice traditionnelle dans cette ville qui se trouve au nord du Niger. Et donc le film a été axé sur l'idée de montrer une autre facette de la charia, vu que les médias parlent souvent de la charia en termes assez violents et durs, je voulais montrer que l'islam, c'est pas que les fondamentalistes, il y a aussi des gens qui ont une pratique très humaniste, donc c'est le cas. Et puis je voulais aussi montrer que les problématiques humaines quotidiennes, on va dire, les problématiques de couple, les problématiques de travail, sont des problématiques qu'on rencontre dans le monde entier, qui sont les mêmes partout. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça tisse du lien dans l'humanité et c'est toujours bénéfique de voir que les gens en Afrique qui vivent comme nous, ils ont les mêmes questions, les mêmes fondamentalement en tout cas.
Je crois que vous avez vu aussi l'un des films événements de ce festival qui s'appelle Le Cauchemar de Darwin. Et que, en tant que cinéaste qui a également filmé l'Afrique, vous n'êtes pas tout à fait en accord avec les méthodes employées et surtout sur le contenu du film.
Oui, je dirais que c'est un peu le cauchemar du documentaire parce que je suis un peu violent en disant ça, mais j'estime que il y a une rupture totale entre l'objectivisé qui est de dénoncer des pratiques inadmissibles et les moyens utilisés qui sont de faire une investigation bancale qui du coup n'est pas porteuse d'un message politique mais est porteuse uniquement d'émotions qui sont absolument gratuites et que je trouve c'est facile de faire un film comme ça, enfin c'est facile. Évidemment que c'est difficile, mais c'est facile d'écrire un film comme ça qui fait pleurer les gens. Par contre, je donne pas longtemps avant qu'il y ait des retours sur ce film. Le Monde s'en est fait porte-parole dernièrement, paraît-il. Des retours qui vont faire travailler le film à sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer, c'est le film qui va être dénoncé. C'est pas parce qu'on veut dénoncer son ennemi qu'on doit utiliser des moyens dénonçables par eux-mêmes. Sinon, l'objectif qu'on vise sera détruit par les moyens qu'on a utilisés. C'est un film qui est censé porter un message politique, un message humaniste et un message économique même sur les problèmes de mondialisation, etc. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail du film. Et que à partir du moment où ce récit n'est pas crédible et n'est pas construit avec une rigueur absolue, il est dénonçable sur chaque point. Donc si on veut être efficace pour contrer des mécanismes qui, eux, sont efficaces, les mécanismes économiques, j'entends, il faut être encore plus rigoureux que ces mécanismes. Ce qui n'est pas le cas du film du film Cauchemar de Darwin. Quand je dis que le film me déplaît, ça ne veut pas dire que la cause me déplaît. Bien entendu, je suis tout à fait horrifié par ce qui se passe au niveau de la mainmise de l'industrie sur l'agroalimentaire et sur le bien commun de l'humanité. Il y a un très très beau film québécois qui s'appelle Le Bien Commun d'ailleurs qui dénonce ça avec une justesse d'écriture absolument éblouissant. Ce film n'est jamais passé à la télévision comme par hasard et pourtant il est basiquement simple et incontestable alors que Le Cauchemar de Darwin étant contestable, on peut aller jusqu'à contester le bien fondé de contester le commerce du poisson, pourquoi pas.
Antoine Cotin, réalisateur suisse, membre du jury du festival, n'a pas lui non plus été enthousiasmé par Le Cauchemar de Darwin.
C'est pour moi un film qui n'est pas du tout intéressant. C'est du travail, ce que j'appelle du travail d'investigation, par ailleurs, à mon avis, controversé, parce que, voilà, au niveau des faits, tout n'est pas si simple. En plus, je trouve qu'on est très mené par le bout du nez, dès le début, par les questions qui sont posées, on a compris. Après un quart d'heure, 20 minutes, j'ai compris où vous voulez en venir. Donc, j'avais pas besoin d'attendre encore une heure pour avoir l'entretien qui tout à coup paraît tellement honnête et ouvert du pilote russe, etc. Tout ça est pour moi une forme de manipulation. Mais c'est même pas le plus important, parce que ça rejoint assez Moore quelque part dans l'approche générale. Pour moi, le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec le cinéma documentaire tel que je le définis, je l'apprécie, parce que la plupart des images que je vois sont des interviews qui sont par ailleurs. Il y a différents types d'interviews. Je suis peut-être moins radical que je l'étais avant. Pour moi, tout ce qui est interview, talking heads doit être balayé. Je me rends compte maintenant aussi par rapport à mon travail que c'est pas toujours le cas, mais ça dépend du type, de la manière dont vous le faites. Et il y a des types d'interviews qui sont faites des discussions, tout simplement. Et de nouveau, on rejoint la question de la sincérité du personnage.
Et ce film, Le Cauchemar de Darwin, sortira en salle cette semaine en République tchèque. Et c'est sur cette information que se termine notre tour d'Orient de l'actualité tchèque d'aujourd'hui.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Le 7 mars, nous avons commémoré le 156e anniversaire de la naissance du premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk. philosophe, pédagogue, savant, essayiste, député, politicien, fondateur d'un nouvel État indépendant des Tchèques et des Slovaques. Tout cela, Masaryk l'était de sa vie. Pour beaucoup de Tchèques, il reste aujourd'hui encore un point de repère, une référence, un symbole, un homme estimé et respecté. Ce n'est pas seulement parce que Masaryk a été le premier président, mais aussi parce qu'il fut un vrai démocrate, un politicien honnête. C'est ce qui a été souligné mardi à l'occasion de la parution du recueil de lettres échangées entre deux personnalités clés et charismatiques de la Première République tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, président de celle-ci, et Karel Kramáš, chef du premier gouvernement tchécoslovaque. La correspondance fournit un témoignage sur les rapports professionnels et personnels entre les deux hommes qui, chacun dans leur position, ont exercé une influence décisive sur la politique intérieure et extérieure du nouvel État. Leur correspondance s'étend sur une période de 40 ans. Masaryk est l'auteur de 110 documents et Kramáš de 167 autres réunis dans cette collection. La première lettre est celle que Masaryk a écrite à Kramáš le 12 janvier 1889, année où les deux hommes sont devenus députés du Parlement autrichien. La dernière est la lettre de Kramáš à Masaryk, datée du 10 décembre 1936, donc un an avant sa mort. Le livre a été présenté à la librairie Pragoise Academia par le professeur Zdeněk Kárník de la faculté des lettres de l'Université Charles de Prague.
Co jsem vnímal především, to bylo to, jací lidé...
Ce que j'ai notamment apprécié dans cette correspondance, c'est qu'elle permet de découvrir comment étaient ces deux hommes qui se sont retrouvés à la tête du pays et qui ont constitué l'axe de sa vie spirituelle. Il est passionnant de suivre que l'un est devenu chef de l'État et l'autre premier ministre, soit en quelque sorte son opposant, bien que les deux soient partis des mêmes idées. Très proches au départ, de par leur opinion sur la politique, ils se sont éloignés, au fur et à mesure, l'un de l'autre, sans pour autant devenir des adversaires. Même dans les situations de conflit les plus aiguës, ils sont restés de vrais gentlemen, et de ce point de vue, leur correspondance reste de toute actualité si on compare cette époque à l'état actuel de la scène politique tchèque.
Le maître de conférence Martin Kučera évoquait de son côté le caractère très vif de Masaryk et son intérêt pour toutes les affaires de l'univers.
Ten příval, to ten strhující impetus, jaký představoval v českém, a nejen
l'impétuosité que représentait dans l'espace tchèque et européen Tomáš Garrigue Masaryk avec sa vision philosophique et politique de la réalité, perçue comme un ensemble, un univers et sans précédent. Il n'existait pas un seul thème, un seul domaine de l'univers, y compris le cosmos, qui ne l'intéressait pas et sur lequel il n'aurait pas voulu s'exprimer. C'est là un aspect de son caractère, sa capacité de contemplation liée à un certain messianisme prophétique, et de l'autre côté, son approche tout à fait concrète et pratique de chaque problème, même le plus théorique. La devise de Masaryk était de pénétrer à travers l'affaire elle-même jusqu'à son fond. C'est ce qui était souvent incompris et qualifié par certains de banalité ou de politique non politique. Mais pour Masaryk, la solution de chaque problème se trouvait dans des faits concrets.
Masaryk lui-même fut l'auteur d'innombrables ouvrages philosophiques, politiques et religieux, s'exprimant sur des thèmes tabouisés ou controversés, le suicide ou la question juive. Quel autre thème abordé par Masaryk reste encore d'actualité 70 ans après son décès, l'historien Ivan Šedivý.
Mám na mysli například otázku, kterou nastol už Masaryk, a to je otázka korektního řešení.
Il y a par exemple la nécessité de solution correcte à la question tchéco-allemande. Pour cela, Masaryk a souvent été accusé d'être pro-allemand et trop international. Autre lègue de Masaryk, sa vision de l'organisation correcte de l'Europe, dans le sens de la coopération, et dans une certaine mesure déjà, de l'intégration des États européens dans laquelle les petites nations et les petits États auraient une place garantie. Enfin, il y a la volonté de Masaryk de faire prévaloir son opinion à chaque fois qu'il était convaincu de sa justesse, même en dépit de l'opposition majoritaire de la société. Et c'est ce qui pourrait être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
Beaucoup oublient que Masaryk s'est opposé au mythe de l'authenticité des manuscrits dits de Zelenohorsky et Králové Dvorský, et qu'il a pris la défense d'un juif, Ilsner, accusé du meurtre rituel d'une chrétienne, affaire qui avait alors pris des proportions semblables à celles de l'affaire Dreyfus en France. Masaryk a mené une campagne contre les préjugés antisémites et raciaux dans la société tchèque. Nous terminerons avec les mots de l'historien Michal Per, pour lequel le plus précieux dans la personnalité et la pensée de Tomáš Garrigue Masaryk est l'accent mis sur l'éthique.
Nejcennější je jeho důraz na etiku.
Si la génération actuelle devait emprunter quelque chose du legs de Masaryk, ce serait justement cette dimension éthique, ce courage de dire ce que je pense. C'est cela le trait le plus caractéristique de Masaryk.
C'est par ce chapitre de l'histoire que notre émission se termine. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400